Bienvenue pour ce nouveau podcast proposé par la MO Samarcande.
Mon papa, même si aujourd'hui c'est très conflictuel, ça reste une personne très importante pour moi. Quand il est là, il y a du soleil partout dans ma vie. Malgré toutes les crasses qu'il me fait, ça reste mon papa.
Ah, ça moi je peux pas me plaindre. Moi j'ai eu des bisous à la maison.
Devenir adulte en harmonie pour soi-même et avec les autres, est-ce que c'est plus difficile pour le jeune en fonction du milieu dans lequel il grandit ? Je ne suis ni un expert en sciences sociales ni en psychologie. Je suis un éducateur qui propose des animations d'expression radiophonique à des jeunes placés en IPPJ depuis 17 ans. Ce qui m'a amené au fil du temps à me questionner sur l'utilisation que l'on pourrait faire de ce contenu pour permettre à tout un chacun d'entendre certaines réalités vécues par ces jeunes, mais aussi la réaction de professionnels qui vont s'exprimer dans ces podcasts. Si vous vous posez des questions sur la famille au sens large et l'impact que l'éducation au sein de cette structure peut avoir dans la trajectoire des jeunes, eh bien, ce sujet de podcast est fait pour vous.
Je t'interdis d'élever la voix sur moi, je suis ta mère, tu comprends ?
Oh my God !
Je sais qu'avant, elle me le disait très... Elle était très directe, ma mère, limite cassante.
Cet extrait provient du carnet de route de Maya, 16 ans, rencontrée à l'IPPJ de Saint-Servais.
Du coup, elle pouvait me le dire tranquille comme ça, en mode c'est tout à fait normal et je pouvais mal le vivre. Là maintenant, elle est moins directe. Elle passe plus par quatre chemins, on va dire. Et des fois, je pense qu'elle-même, elle se retient même de me dire des choses de peur ou de peur que je me braque ou quelque chose comme ça. Alors que moi, j'ai pas besoin que ma mère se retienne de dire ce qu'elle pense, parce qu'elle peut penser. Elle a le droit de me dire que je suis sa fille. Mais c'est la manière dont tu veux me faire passer le message. Il y a des choses, des fois, qu'elle a pu me dire, qui allaient dans le fond, n'étaient pas faux, c'est vrai. Mais la manière dont elle l'a dit était tellement cassante que je finissais en larmes et en rage comme ça. Et du coup, je me fermais à toute discussion et puis ça finissait mal. Et puis la culpabilité me venait dans le sens où je me disais « Ah merde, j'étais avec ma mère il y a une heure et j'ai même pas été capable de prendre ce moment-là pour passer un bon moment. » Ça a fini par se clasher, quoi. Pourquoi ?
L'extrait que l'on vient d'entendre parle de la manière de faire passer un message à son enfant et les difficultés que cela peut provoquer. Explorons maintenant, à partir de cet exemple, différentes questions d'ordre éducatif inspirantes, ainsi que différentes postures dans lesquelles nous pourrions nous reconnaître.
Oui, parce que de tout ça, je ne retiens qu'un mot, le mot peur. Et c'est vrai, quand on est parent, ce n'est pas facile. C'était plus facile à l'autre époque. Parce que tout ça venait de soi. On se mariait, on avait des enfants. Je vous ai dit qu'il y avait 6 enfants chez mon mari, mais il y avait 6 enfants chez son grand-père aussi. J'ai eu une collègue, elle était l'aînée d'une famille de 10 enfants. Et donc, ce qui fait que, au fond, oui, la mère avait beaucoup de travail, mais l'éducation, ils s'éduquaient par eux-mêmes. Tandis que maintenant, on attend beaucoup, 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 beaucoup de parents. On doit encadrer ses enfants. Si mon mari pouvait parler, il n'est pas ici. Mais eux, ils jouaient partout, en bande, dans les bois. Et puis après, quand c'était l'heure qu'ils avaient faim, ils revenaient. Tandis que maintenant, dans une famille, il faut s'occuper de tout. Il faut bien sûr éduquer son enfant, mais il faut toujours tenir compte de comment les autres enfants sont éduqués, comment ils sont habillés, leur vie. Et alors, ils font copie conforme. Et la maman qui a des enfants maintenant, elle a peur. Elle a peur de mal faire. Elle a peur d'être critiquée. Que la voisine pourrait même lui dire, si sa fille sort mal habillée ou quoi que ce soit, beaucoup d'autres, ou trop maquillée ou trop n'importe quoi, eh bien... Oh, qu'est-ce que la voisine va dire ? Qu'est-ce que l'autre va dire ? Bon. Alors, la mère, elle est dans la peur. Et une fille va le ressentir plus fort qu'un garçon, ça j'en suis sûre, c'est le cas ici. C'est que notre fille ici, elle a peur aussi. Donc, on est dans un monde de peur, donc on n'est pas vrai. On n'est pas dans la réalité. Alors, on joue un rôle. Mais je me rends compte que... Il y a beaucoup de familles que c'est comme ça, surtout le rapport mère-fille. Mmh. Le rapport mère-fille est très, très, très compliqué. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec la fille, même le père pourrait dire « Oui, mais fais attends, regarde un peu à ta fille. » Alors que ce rôle-là doit être partagé, finalement. Voilà. Et alors ici, il y a beaucoup de mères qui ne font plus confiance à leur fille à cause de tout ce qu'elles voient partout dans les masses médias et tout ce qu'elles entendent. Et elles ont peur que leur fille se fasse kidnapper, elles ont peur que leur fille se fasse violer. Elles ont tellement peur de tout qu'elles ont un dialogue, c'est vrai, raide avec leur fille. Elles feraient mieux de dire directement, en se rapprochant, voilà pourquoi j'ai peur.
Mais je trouve que ces jeunes que tu interroges, il y a une certaine maturité. Donc c'est intéressant de dire à l'autre, enfin de dire à la maman, mais en fait tout peut être dit, mais ce qui est très important, c'est la façon dont tu me le dis. Et donc moi j'irai un stade, enfin ça c'est peut-être pas là, mais j'irai quand même un stade encore plus loin. Donc c'est pas, pour moi c'est pas seulement la façon dont on dit, peut-être que tout, est-ce que tout est disible entre guillemets. Ce qui est important aussi, c'est de respecter l'autre dans ce qu'on a à dire. Et donc le souci parfois, c'est que en tant que maman, il y a probablement des choses qui sont très anxiogènes, des choses comme ça, et qui font qu'on déverse sur son enfant sa propre anxiété. Oui, et donc du coup la forme n'est pas bonne, mais peut-être le fond non plus, parce que c'est le fond qui appartient à la maman. Et je suis pas sûre que les enfants doivent toujours tout porter. Donc est-ce que tout est à dire ? Il y a aussi un travail à faire du côté des parents pour pouvoir faire confiance à son enfant et pouvoir mettre parfois les choses un peu à distance sur le plan émotionnel.
Si je reviens à la maman, comment donc, a elle peut-être elle-même vécu des expériences négatives dans son adolescence et peut-être même dans son enfance que nous ne savons pas. Et donc, nécessairement, c'est peut-être à cause de son passé, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ça aura un lien. Et comme il y a aussi une phrase qu'on dit, quand on oublie son passé, on est condamné à le revivre. Moi, je crois que... Ou alors, il faut être plus... Comme moi, je l'ai été, mais c'est deux fils que j'ai eus. C'est différent. Eh bien, il y en avait un, le plus jeune. C'est souvent comme ça que ça se passe. Eh bien, il nous a joué le coup une fois que pendant 2 jours, nous ne savions pas où il était. Et nous n'avions pas les GSM ni tout ça. Et donc, bien entendu, mon mari et moi, nous avons refait les endroits où il était passé. Mais...
Et est-ce que tu as eu peur ?
Mais bien, ah oui, et bien voilà, à ce moment-là, et c'est ça aussi que parfois les jeunes ne comprennent pas. Quand on l'a retrouvé, eh bien, on avait envie de le serrer dans ses bras, mais en même temps, on avait envie de le battre. De le battre. À cause de l'angoisse qu'on avait eue. Et lui, il trouvait normal, il avait fait une guindaille, comme ça qu'on disait, une guindaille, et il allait revenir. Pour lui, dans sa tête, il n'y avait pas de problème, il allait revenir. Et je vois, oui, c'est vrai, que pour être en harmonie avec soi-même, maintenant, je vais dire franchement que ceux qui n'ont jamais vécu des petits problèmes, ils ne sont pas prêts à vivre non plus. Ça, il faut le dire. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, voilà, mon deuxième fils m'a causé peut-être plus de problèmes dont il n'a aucune idée, mais j'ai toujours dit, il retombera sur ses pattes. Donc quelque part, j'avais quand même confiance en lui.
Comment éviter l'emballement ? C'est quoi les signaux ?
Dans l'échange verbal, c'est quand je pense que l'escalade se fait quand chacun reste figé dans ses pattes. Quand chacun est dans son propre émotionnel, qu'il n'arrive pas à prendre distance par rapport à ça. Donc, je dirais ce qui est intéressant. Donc, ça, voilà, c'est ça. Donc, si on est dans l'émotion, l'enfant dit quelque chose, on lui répond du tac au tac. Le tac au tac, ça amène à l'escalade. L'idéal, en tout cas, moi, c'est ce que je fais en tant que professionnelle. Moi, en tant que mère, j'essaye aussi, c'est parfois plus compliqué. C'est toujours plus compliqué en tant que mère qu'en tant que professionnelle. Mais c'est prendre une grande respiration avant de répondre et se dire que ce que le jeune adresse, c'est pas spécialement toujours dirigé contre soi, mais ça représente ce dont lui a besoin et il l'exprime. Peut-être pas toujours de façon adéquate, mais c'est surtout ne pas prendre les choses personnellement. C'est quand on prend personnellement qu'on arrive à l'escalade. Je pense.
Un petit conseil, alors, pour éviter de le prendre trop personnellement. Mm-hmm.
Donc c'est l'idée justement de se mettre dans une position un peu plus en empathie, à l'écoute de l'autre, en disant « mais s'il me dit ça, ce qui m'agresse là, ça lui appartient à lui, c'est pas dirigé contre moi, donc il est dans une souffrance, une difficulté. Et où est-ce que moi je vais pouvoir l'aider par rapport à ça ?»
Mais j'ai envie de dire, soyez francs avec vos enfants. Genre soyez francs, mais pas francs au point où ça peut les blesser. Genre faut pas être cash en mode « ouais non », en mode blessant. Faut juste genre expliquer les choses telles qu'elles sont. Genre en mode pourquoi est-ce que je dis non? Pourquoi je t'explique ça comme ça et tout? Faut pas genre essayer de... Genre en anglais il y a un terme genre sugarcoating. C'est genre mettre du sucre en mode couvrir la vérité pour qu'elle paraisse plus vraie ou plus douce par exemple. Et franchement ça je pense pour certains trucs, ok c'est peut-être bien pour pas blesser l'enfant ou alors le choquer. Mais faut pas tout le temps faire ça. Faut pas tout le temps faire ça. Genre, par exemple, quand tu lui dis non, mais faut expliquer pourquoi tu dis non. Mmh. Faut dire pourquoi tu penses comme ça et tout.
Comment est-ce qu'on évite l'emballement? Tu vois, quand il y a une discussion avec son enfant, et bah, les choses. Ou son ado, on va dire plutôt un ado, et qu'il y a une incompréhension de part et d'autre, et que parfois ça va jusqu'à. Par exemple, un refus, si tu veux sortir le soir, mmh. on te dit non, pour une raison ou l'autre, tu le prends mal. Et ça s'envenime, et tu finis quand même par sortir, mais ça gueule, quoi.
Ouais.
Et comment éviter ça? Comment éviter qu'on ne s'engueule et qu'on parte dans les aigus les
Ah, graves. Moi, je sais pas, parce que franchement, moi, ça s'est toujours passé comme ça avec mes parents, quoi. Genre, moi, dès qu'il y avait un non, genre, on s'emballait direct. Ou alors, je faisais la gueule, quoi. Mais franchement, cette question-là, je peux pas trop y répondre, parce que je sais pas. Ouais, c'est franchement pas agréable parce que ben, déjà pour moi, c'est pas agréable de me disputer avec mes parents en général. Et même pour eux, se disputer avec son enfant, c'est pas agréable.
Et avant que tu ne franchisses des étapes, toi et maman par exemple, mmh. jusqu'à la grosse dispute où il y a une incompréhension absolue, totale, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une pause à un moment et de se dire on va trop loin et dire stop?
Mais j'ai envie de dire genre le stop. Il devrait être plus en mode viens, on fait une petite pause, chacun va un peu de son côté et tout, on souffle un peu, puis on revient sur la question.
Est-ce que ça arrive ça? Est-ce que c'est possible?
C'est possible, bien évidemment. Si on le fait comprendre à son enfant qu'en mode attends, là ça peut aller trop loin, là on commence un peu à s'engueuler, à se disputer et tout, viens, on va tous les deux un peu se calmer. Mais en fait, généralement, c'est moi, la pause elle arrive trop tard. Genre, elle arrive à la fin de la dispute et justement, genre, chacun va de son côté. Moi, en fait, surtout avec mon père, par exemple, ça se passe généralement en mode on se dispute, mais à mort. Et après, chacun va de son côté et une heure, deux heures plus tard, on fait comme si de rien ne s'était passé. Et ça, justement, c'est pas bien. C'est pas bien de laisser ça passer en dessous du paillasson, faire genre que rien s'est passé. Faut toujours, genre, revenir sur ce qui s'est passé et expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Pourquoi et comment on pourrait éviter ça la prochaine fois?
C'est ce que toi tu souhaiterais et c'est ce qui se produit parfois avec tes parents?
En fait, généralement, mes parents et moi, on revient jamais sur la question. Mmh. C'est ça qui est triste. Et justement, ben, si on revient jamais sur la question de pourquoi ça s'est passé comme ça et comment on pourrait éviter ça, ben, ça pourrait éviter tellement de situations dans le futur. Genre, ça pourrait éviter des disputes, ça pourrait éviter même des bagarres carrément.
Parce que se retrouver dans la même situation, sur le même sujet.
Ouais, et justement, c'est ça aussi, genre, se retrouver sur le même sujet, c'est le pire. Parce qu'on va se dire, mais merde, on s'est déjà disputé sur ça et tout, tu reviens avec ça, nanana, et ça s'envenime encore pire. Et, mais franchement, c'est triste. Parce que la prochaine fois que ça s'envenime sur le même sujet, ça peut aller plus loin qu'une dispute. Mmh. Ça peut aller plus loin que des engueulades. Parce que justement, genre, on se dit, mais ça me fait chier ce même sujet-là, on revient à chaque fois sur ça. Avec des disputes justement, pas avec une explication calme.
Et faire une pause. Tout ne doit pas toujours se régler et se comprendre sur le moment.
Très intéressant. D'ailleurs, il y a je trouve une technique qui est très intéressante proposée par Aïm Amer. Je ne sais pas si tu connais ce psychiatre qui travaille la résistance non violente. Et un des principes de ces techniques, c'est de battre le fer quand il est froid et pas quand il est chaud. Donc, c'est-à-dire, je prends un temps plutôt pour me dégager de cette émotion, moi et l'autre. et puis revenir après là-dessus. Donc ça veut dire ne pas abandonner la discussion, mais la remettre peut-être à plus tard si on est trop dans ce moment émotionnel. Le souci, j'ai envie de dire souvent avec le parent, c'est qu'il est un peu donneur de leçons. Et donc pour l'enfant, c'est de devoir se dire « Ok, elle va revenir avec son truc, maintenant on est tous les deux calmés, mais elle va de nouveau venir me faire la leçon. » Donc on peut revenir vers l'autre, mais dans une position qui est plus équilibrée. Je crois ça, c'est intéressant. Et quand on est apaisé, pour pouvoir de nouveau organiser cette rencontre où chacun écoute l'autre. Et s'il y a une vraie situation complexe, c'est important de pouvoir revenir dessus. Je crois que tout ce qu'on met sur le tapis, il y a un moment, ça ressort. Ou c'est ce qu'on met dans les placards aussi, il y a un moment, ça ressort. Donc quand il y a vraiment des choses importantes, l'idéal, c'est de pouvoir en parler. Les non-dits, ça me semble vraiment une mauvaise idée.
Merci beaucoup aux différents intervenants d'avoir accepté cet exercice d'écoute, qui pourra nous permettre, je l'espère, de créer des ponts et de poursuivre la réflexion sur ces matières si importantes.
Pour grandir correctement, on a tous besoin d'être aimés.